Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magnifique, ton roi!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Numéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Europe et je t'emmène à pied. Et ça, ça fait du bien parce que clairement, en ce moment avec les frontières, c'est un peu compliqué d'aller loin. On sait pas trop où, on sait pas trop comment. Par contre, les frontières en Europe, elles sont plutôt ouvertes. Et en plus, à pied, ça permet de prendre plus son temps et d'anticiper et de pas se retrouver un peu embêté avec les billets d'avion. Et pour ça, c'est Marie qui va nous raconter son épopée qu'elle est en train de vivre de Dijon à Istanbul. Salut Marie, comment ça va ?
Salut, ça va bien. Tu parlais de frontières.
Ouais.
Et ça tombe bien, je vais t'emmener direct dans ma soirée d'hier soir.
Ouais.
Donc là, on est à 5 km de la frontière croate. Et hier soir, comme tous les soirs, on plante la tente. Il fait froid, ouais. Donc on fait un petit feu.
Ouais.
Et on entend quelqu'un. On était un peu au-dessus d'une route, on entend quelqu'un qui nous parle, mais en slovène. Donc nous, est-ce qu'il parle à nous, est-ce qu'il parle à son chien ? On se pose la question et on continue à faire cuire nos pâtes. Et une demi-heure plus tard, il y a une voiture qui s'arrête, qui redémarre, qui s'arrête à nouveau. Et là, il y a 3 lampes torches qui montent vers nous. Donc
sympa.
Ok. Il fait nuit, on n'a pas très envie de planter la tente, de trouver un autre endroit et tout. Et c'est la police. Donc il y a 2 policiers, un militaire qui arrivent, donc... On se lève, papier d'identité, on panique un peu.
Ouais, tu m'étonnes.
mais on sait qu'on est dans notre droit. C'est à ce moment-là qu'on a compris qu'on était très très proche de la frontière croate et qu'il y avait probablement quelqu'un du voisinage qui nous avait signalé comme des migrants.
Ah d'accord, ah carrément, ah on en est là. Sympa.
Voilà. Donc, effectivement, on est heureux d'avoir un passeport européen.
C'est là où tu vois la grande chance qu'on a et que justement, il faut en profiter aussi. Allons voir d'autres cultures, allons nous renseigner. D'autres aimeraient le faire et ne peuvent pas. Et surtout quand tu arrives et on t'accueille avec des flashlights pleine bouche, pendant que tu fais cuire tes petites pâtes en soirée après une bonne journée de rando, c'est pas toujours évident. Et justement, avant de rentrer dans toute cette aventure, si tu es près de la frontière croate, c'est que tu as déjà bien baroudé, vous avez bien baroudé parce que tu n'es pas toute seule, tu es avec ton chéri, en Slovénie. Et moi, c'est un pays que je connais pas du tout, mais qui m'attire énormément. Ça ressemble à quoi la Slovénie ?
Alors, nous, on a été bluffés. Effectivement, moi, c'est la première fois que j'y vais. Et on y est arrivé par l'Italie.
Ok.
Donc, on est arrivé dans la ville de Tolmin, c'est dans une vallée. En fait, c'est la fin de l'arc alpin. Donc, on y est arrivé plutôt par la montagne. C'est une vallée avec une rivière bleu turquoise qui s'appelle la Socha. Et c'est un pays qui a une diversité de nature extraordinaire. Le pays est couvert à 60% de forêt.
Ah ouais.
Et c'est énorme. Hein. À titre de comparaison, en France, c'est 30%. Donc,
ah ouais.
Une fois plus. Au sud du pays, on a les forêts les plus intouchées d'Europe, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Sérieux ? Attends, mais moi qui suis un grand fan de forêts, qui suis toujours en train de chercher des forêts un peu stylées, c'est de la forêt primaire, ce qu'on appelle, en fait.
Exactement, c'est des forêts primaires. Et c'est aussi là qu'il y a la plus grande population d'ours. Je crois qu'ils ont 1200 ours. Nous, en France, on en a 50, et d'ailleurs, ils viennent d'ici.
Je crois qu'ils se battaient avec la Roumanie. Ça doit faire un petit battle. Enfin, dans ce coin-là, il y a de l'ours, quoi. Micro aparté.
Ouais.
Moi, j'ai été au Canada où il y a des ours, en plus des grizzlies, des trucs comme ça. On te dit, faut faire gaffe, tu vois. Quand tu fais à manger, quand tu campes, tu campes pas là où tu fais à manger. Est-ce que vous avez appliqué un peu ces règles-là? ou vous l'avez fait genre en mode bah non, les ours c'est peureux, ils viendront pas nous embêter?
Alors, on est un peu des optimistes dans l'âme, donc on est un peu dans ce mood-là. Non, c'est pas du tout les ours canadiens, c'est pas des grizzlies. Normalement, ils sont peureux. Alors, on nous a donné un conseil, c'est si on voit un ours, je monte sur les épaules d'Arnaud et je lève mes bâtons en l'air. Le conseil qu'on nous a donné, c'est de monter en fait, de se mettre l'un sur l'autre, les bâtons en l'air, pour être le plus grand possible et que l'ours pense qu'on est plus fort que lui. Voilà, très honnêtement.
C'est un conseil vraiment nul, on va pas se le cacher. T'es en pression, tu vois un ours qui t'arrive pas en tant que Français, d'accord? T'as un sac de 15-20 kilos sur le dos, donc tu dis « Attends ma chérie, enlève ton sac toi aussi. Allez, maintenant je vais te prendre sur mes épaules. » Tout ça de façon très calme, très détendue quand t'as un ours à 5 mètres de toi. On va dire, est-ce qu'ils t'ont donné un conseil qui peut vraiment te sauver ou pas? Ou peut-être juste crier et faire des grands signes, non?
Alors, je pense effectivement que ce serait plutôt notre réflexe, mais si t'as un conseil pour les ours, je prends.
Moi, c'est un peu ça, hein, c'est se faire le plus grand possible. Mais moi, on m'avait dit, de toute façon, en général, tu serais tout seul potentiellement, parce que c'est aussi là, quand t'es deux, tu fais tout de suite plus peur que quand t'es tout seul. Et c'est de te faire grand, c'est de pas tourner le dos, et c'est de reculer tranquillou, c'est de crier, et voilà. C'est un peu, tu donnais l'impression que t'es plus fort, tout simplement. Après, on évite d'être trop près, on évite de surprendre. En général, quand on se balade en forêt, on essaie de ne pas être trop en mode silencieux pour pas tomber nez à nez avec un ours. Puis voilà. Puis après, c'est le reste, c'est de la nature. Du coup, vous n'en avez pas rencontré.
On
n'en a
pas rencontré.
Ok, donc franchement, en mode bonne étoile, en mode ils sont assez peureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que les ours aussi, pour ceux qui ont envie d'aller visiter les forêts slovènes, tu vois, ils ont un odorat qui n'a rien à voir avec nous. Donc, je crois que c'est, je sais plus, fois 30 par rapport à nous. Donc, ce qui fait que si tu schlingues un peu, si tu as des odeurs d'humains, normalement, tu es détecté assez facilement aussi et ils vont s'écarter de toi parce que bah, tu schlingues pour eux. Voilà, tout simplement. À moins que tu aies des petits crackers dans le sac. Faut faire gaffe aussi.
Non, alors ça, le soir, on suspend toute la nourriture dans les arbres, comme ça. Ouais, au pire, s'ils veulent la bouffer, ils s'attaquent.
Ah non, mais d'accord. Il y a quand même des précautions d'usage qui sont quand même respectées. Moi, je pensais que vous étiez quand même la fleur au fusil, genre, bah non, t'inquiète, ils ont pas. Non, vous prenez, vous compartimentez, on va dire, dans un sac toute la nourriture et vous mettez une corde, j'imagine, d'escalade, un petit truc un peu solide à une branche et puis vous suspendez tout ça, on est d'accord?
C'est ça, oui, on a la nourriture dans des petits filets qu'on suspend aux arbres. Mais bon, ça, on l'aurait fait pour les renards, pour les sangliers, pour les animaux.
Ah ouais, histoire ok.
De dormir tranquille. Oui,
bon. Ouais, on sait jamais. Ouais, tu m'étonnes. Et excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. C'est la petite parenthèse ours qui est quand même stylée, on va pas se le cacher. On était dans les forêts primaires de Slovénie. Tu m'as dit qu'il y avait une grande diversité. Mais justement, moi, je voyais ça très montagneux et très forêt de pins. Tu vois, la Slovénie, non, je me trompe complètement.
L'ouest du pays, qui est côté Alpes, est très montagneux.
Ok, ouais.
Ensuite, on est plutôt sur un paysage vallonné, avec beaucoup, beaucoup de forêts. Et c'est un pays aussi très agricole, donc les campagnes sont hyper vivantes. Ça, c'est génial quand on marche. Les villages sont habités, il y a des petites granges, des stockages de foin un peu partout. Les villages sont vraiment tout petits mais très vivants, ce qui est hyper agréable et qui nous change pas mal par exemple du nord de l'Italie où on était juste avant. Ça va faire 3 semaines qu'on est ici. On traverse vraiment le pays d'ouest en est, et on a une diversité de paysages qui est dingo.
Tu vois, c'est pareil, je me serais pas du tout attendu à je pensais que c'était beau, mais qu'il n'y ait pas du tout une diversité de paysages. Ça veut dire, en fait, les forêts de l'ouest n'ont rien à voir avec, on va dire, les paysages et les forêts de l'est. C'est un peu ça.
C'est pas du tout le même relief. Du coup, forcément, c'est pas les mêmes arbres. Parce que, oui, comme je te disais, l'ouest, c'est vraiment la fin des Alpes.
Ouais.
Tandis que l'est, c'est plutôt vallonné. On se rapproche de la vallée du Danube. Voilà, c'est plus vert et agricole, quoi.
Génial. Et du coup, je vais revenir. Merci pour cette petite introduction sur la Slovénie qui devient de plus en plus populaire. Je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs aussi qui sont allés, qui ont mis en lumière cette nature, ces paysages assez incroyables. Et je le rappelle, juste à côté de chez nous, c'est quand même fou. Donc, profitons-en des forêts primaires. Je sais qu'il y en a aussi, j'en avais aussi quand j'étais en Albanie, dans la vallée de Valbona, et c'est une forêt primaire dans les Alpes. En fait, c'est dingo. C'est comme tu dis, tu te retrouves avec des rivières bleu turquoise, tu as des mousses, des lichens de partout, tu as des arbres qui en fait, dont les racines ont pris possession sur les rochers, parce qu'en fait, ils ont eu le temps, on les a jamais touchés, on les a jamais embêtés. Donc, c'est assez impressionnant. Et du coup, pour faire ce trip Dijon-Istanbul, déjà, chapeau. On t'est sorti du truc Paris-Istanbul, tu vois. Alors, on t'est dit, on commence de là où on est, c'est Dijon, c'est bien, on se prend pas la tête, la moutarde, elle est connue aussi, il n'y a pas de raison. Comment on se prépare à ça, en fait? Parce que là, c'est quand même un trip à pied, où en plus, là, on attaque l'hiver. Donc, comment vous avez combien de kilos? Qu'est-ce que vous avez pris avec vous? Si des gens ont envie de le faire de façon pragmatique, si on n'est pas des cadors, qu'est-ce qu'on va mettre dans son sac?
Alors, nous déjà, on est petits.
Ok.
Donc, tout à l'heure, tu
Attends,
disais
ça
que
veut
tu
dire
avais
quoi?
20 kilos
Attends,
sur
ça
le
veut
dos.
dire quoi ça? Ça veut dire quoi, Marie? On est petit.
Non, non, mais
C'est quoi la taille? C'est quoi la... Attends, qu'est-ce que t'appelles petit? Vous faites combien? Vous
non.
mesurez combien?
Je fais pas 1,20 m, mais je fais 1,60 m.
Ok, c'est pas grand, effectivement. Et ton mec, il
Voilà.
fait?
1,70 m.
Ok, c'est pas grand non plus, effectivement.
Voilà.
C'est ok. Des petits modèles. Donc, on n'est pas là à se porter 30 kilos. C'est ça que tu voulais dire?
Non, ni 30, ni 20, et même 15, c'est, on approche de la limite de ce qu'on peut faire. Donc, on est gentiment sportif, mais voilà, on n'est pas des fous de la montagne à la base. Donc, on a déjà essayé de se dire, il faut pas que notre sac nous handicape.
Très très
Le
bon
premier
réflexe.
challenge de notre voyage, c'est de traverser les Alpes. Donc, on avait fait un petit peu de montagne avant, mais voilà, pas des fous. Et on a fait un sac un peu minimaliste pour l'été.
Génial.
Un conseil qu'on donne souvent en randonnée, c'est un peu que le sac parfait, ce serait 10% de son poids. Le sac où on est tranquille de ne pas se blesser, c'est autour de 20% de son poids. Donc nous, on a essayé de
Ah.
taper au milieu. On s'est dit 15%, c'était un peu l'objectif été, dans lequel on est arrivé assez facilement.
Super, donc on atterrit sur un sac à...
Alors.
Attends, what? Attends, 10% de votre poids? 15%? Attends, mais si tu fais 40 kilos, ça fait 5 kilos de sac? 5-6 kilos de sac, quoi? Non.
Cet été, j'étais à 6,5 kg
Ah ouais!
et Arnaud 7,5 kg sans l'eau et la nourriture. Donc,
Ah, ok, tu
ouais.
me rassures. Ces gens-là, ils vont avec un caleçon, c'est... D'accord. Non, mais en fait, je veux dire, la structure de base, l'équipement de base, je trouve que c'est une super référence que je ne connaissais pas. Donc, il y a quoi dans ces 10-15%? Qu'est-ce que vous avez mis?
Alors. Déjà, on fait tout en tente, donc il y a une tente. Pour cet été, on a pris une tente assez légère qui pesait que 900 grammes. C'est une tente MSR, c'est ce qui se fait de plus light. Ensuite, c'est con, hein, mais deux t-shirts, deux habits, pas plus. Et ensuite, pour l'hiver, là, on est en train de s'équiper un peu plus parce qu'effectivement, on rentre dans le dur.
Ouais.
Là, il faut deux doudounes. Un collant en laine, une capuche, un bonnet, des gants, des surgants pour pas trop se mouiller les mains.
Ouais. Mais ça, en plus, ça se porte assez facilement puisque finalement, tu le portes pas dans un poids mort concentré, on va dire, mais tu le portes sur toi. Donc, c'est réparti sur tout ton corps et c'est finalement pas le... Tu sens le poids en plus ou pas avec cet équipement ou pas tant que ça finalement?
Entre l'été et l'hiver, mon sac a pris 1,7 kg.
Ah, mais ça va! Ah, mais c'est vraiment, tu le sens vraiment dans les pattes le kilo. Ouais, en même temps, ouais, au bout d'une journée, j'imagine que je
Bah,
m'étais
justement,
dit,
ensuite,
t'aurais doublé, moi.
Non, on s'est habitué au poids du sac et donc on va s'habituer au poids du sac d'hiver. Et puis, on ne traverse pas les Alpes, on est sur un relief vachement plus tranquille, vu qu'on n'a pas prévu. D'aller en montagne cet hiver pour justement pas avoir tout l'équipement dont on a besoin quand on fait de la rando dans la neige. Donc on n'a pas de raquettes, pas de crampons, tout ça, ce qui permet aussi de limiter un peu le poids de l'équipement d'hiver et d'avoir un peu moins de difficultés à porter le sac.
Alors, question technico-survivor. Maintenant qu'on sait à peu près ce que tu mets dedans, donc c'est deux t-shirts, voilà, il y a quasiment, enfin en vrai, il y a quasiment rien. Hein. C'est l'été, en tout cas la partie été, c'est vraiment minimaliste. Il y a tapis de sol, je pense, un peu sympa et sac de couchage. Et il doit y avoir une gourde aussi. Et le reste, enfin, c'est rien du tout. C'est de la bouffe et de l'eau. Justement, en termes d'eau, déjà, c'est un camel bag, c'est combien de litres? Et en termes de bouffe, qu'est-ce que vous achetez et tous les combien de jours?
Alors, sur l'eau, on utilise des bouteilles d'eau et une poche à eau.
Okay.
C'est ce qu'il y a de plus juste, c'est plus léger que les gourdes. Et on a une paille filtrante.
Ouais,
donc ça, ça a bien aidé dans les Alpes pour justement pouvoir compter sur les ruisseaux. Il y a même un soir, on pensait trouver une source. Au final, on a trouvé une flaque. Bah, avec la paille filtrante, on était tranquille. On a bu dans la flaque, quoi.
Et c'est quoi? Et vous êtes jamais tombé malade, on est d'accord?
Non, jamais.
Et quelle est la marque de cette paille? C'est Life Straw?
Exactement. Life Straw Sawyer Mini. Voilà. Donc, c'est le système le plus efficace. En plus, c'est hyper bien fait parce que pour la laver, il faut injecter de l'eau en sens inverse. Donc, c'est pas un truc où il faudrait trouver un filtre de rechange au milieu de la Serbie. Non, c'est juste immortel.
Ah ouais, ouais. Putain, c'est génial, ils sont trop forts. Mais je sais qu'ils en avaient emmené pas mal en Afrique justement parce que bah, la plupart des eaux sont pas très potables, que ceci, il y a beaucoup d'eau stagnante. Et même dans une eau stagnante, les mecs, ils arrivent à filtrer les bactéries, les virus, les trucs, les machins. Donc ça, c'est franchement. Et ça, c'est d'un côté survivor, mais le côté écolo, c'est que tu vas. Moi, je l'ai là. Tu vois, par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, j'ai acheté zéro bouteille d'eau parce que j'avais une gourde filtrante en fait, et je prenais l'eau du robinet. Donc ce que tu fais jamais, hein, on est d'accord. Je suis jamais tombé malade. Et d'un point de vue économique, tu peux dire que ça t'économise aussi de l'eau parce que c'est assez cher en fait, l'air de rien, dans ces pays-là. Et pas de plastique. Pas de bouteilles en plastique, et ça on aime bien quand même. Donc il y a que du bénéf à lâcher, je pense c'est 50 balles, 60 balles dans une gourde filtrante ou une Life Straw. Faites-le. Je pense j'ai fait un article là-dessus comparatif, mais c'est vraiment il y a que du bénéfice à le faire, vraiment.
Niveau réchaud, cet été on avait un réchaud à bois. Donc ça aussi pour
un réchaud à bois. Je l'avais jamais entendu celle-là. Comment ça, un réchaud à bois? Ça s'appelle un feu, en fait, c'est un feu de camp, en fait, ça Marie.
Ça fait mieux réchaud à bois quand même.
Ouais, c'est beaucoup. Ouais.
En fait, c'est un petit triangle en aluminium qui se monte et qui permet de cadrer le feu, donc de faire son feu de manière beaucoup plus sécurisée et aussi de pouvoir faire un feu de brindilles. C'est-à-dire qu'on arrive à faire chauffer de l'eau sans mettre des bûches. C'est vraiment, c'est un petit feu qu'on peut faire du coup en sécurité dans la forêt et ça permet de pas avoir à porter son carburant parce que quand on fait une semaine, on peut acheter du gaz, mais nous, on peut pas s'approvisionner en gaz toutes les deux semaines. Donc, le bois a cet avantage-là. Et puis, le jour où on sait qu'il va pleuvoir, on ramasse du bois sec et ce jour-là, on porte un peu son carburant.
Attends, mais je ne connaissais pas on balance une marque, balance un nom, vas-y, qu'on puisse voir ce que c'est.
Alors,
de tête.
Ça s'appelle celui qu'on a, il s'appelle Bushcraft, mais il y a Vargo qui en fait un pas mal aussi. Et il y a différents modèles. Il y a un modèle qui est plus adressé aux gens qui est un peu plus lourd.
Ouais.
Et puis il y a les modèles
le
pliables. Nous c'est il y a le modèle barbecue et puis il y a le modèle pliable, exactement. Nous on a le modèle pliable qui c'est la miniature du barbecue, mais c'est vachement bien, franchement, c'est ouf. Et là on est passé sur un autre truc parce que en hiver le bois est plus mouillé, c'est un peu plus compliqué.
Ouais.
Et on a un réchaud à gaz.
Ouais.
Non, pardon. Un réchaud à alcool.
Alcool.
Ouais,
ça faut pas gâcher les gars là, c'est pas bon de gâcher l'alcool.
Alors c'est de l'alcool à 80. Donc je pense que ça réchauffe si t'en vois.
Je ne connaissais pas. Tu me fais découvrir des trucs. Je connaissais les réchauds à essence pour le coup. Tu mettais de l'essence, un bidon d'essence, tu prends tac boum et réchaud à gaz qui sont super efficaces. Mais un réchaud à alcool. C'est pas t'achètes une vieille bouteille d'alcool à 90 dans le commerce et c'est parti quoi en vrai.
Ça, donc c'est le même avantage que le réchaud à essence, c'est qu'on en trouve partout. Et par contre, nous ce qu'on a trouvé comme avantage par rapport à l'essence, c'est que le système du réchaud à essence, c'est plus ou moins le même que le système du réchaud à gaz, et il pèse un peu lourd, cette espèce de but à gaz. Ouais. Alors que là, le réchaud à alcool, c'est juste un petit récipient où l'alcool s'allume et se met en pression et ressort par les côtés. Et nous, on l'a même fabriqué nous-mêmes parce qu'on n'avait pas ça au début. On a voulu en acheter un, puis on s'est renseigné sur les modèles, on a voulu tester. On a trouvé un mec sur un blog qui fabriquait ses propres réchauds à base de canettes. Donc, on a pris une canette de bière, on a fabriqué notre truc, et puis on s'est dit, si ça nous plaît, on en achètera un. Et en fait, ce qu'on a fabriqué marche tellement bien qu'on n'en a pas acheté.
T'es sérieuse? Mais moi, ça fait un peu le truc, j'ai l'impression qu'il va vous péter à la gueule un jour. On a mis un litre d'alcool à 90 dans une petite canette, là, on a fait trois trous, pof, pouf, mais ça marche super bien. vous me faites rêver. Évidemment, internaute, il y a le lien des réseaux de Marie pour que tu vois à quoi ressemble tout l'équipement et sur ce magnifique réchaud canette. Voilà. Si tu as envie de voir le lien, voilà, le lien est dans la description du podcast, évidemment, c'est magique. Et attends, on reste là-dessus parce que c'est quand même un délire. Ton réchaud canette, là, ça met combien de temps pour chauffer? Je sais pas, tu mets une petite casserole, ça met un petit litre d'eau ou un demi litre d'eau ou un truc comme ça, tu mets combien de temps? C'est rapide ou pas? Ou c'est le truc qui dure des plombes?
Non, c'est hyper rapide.
C'est fou, ça.
Pour faire chauffer Alors, nous, on a une popote qui fait 750 millilitres.
Ok, ouais.
On met 5 minutes pour la faire bouillir.
Ah oui, c'est rien. Ah oui, c'est rien. C'est surtout quand tu es à l'extérieur, ça prend forcément plus de temps. Mais waouh, ah ouais.
Je dirais que par rapport au gaz, il y a une seule contrainte, c'est que l'alcool doit être... Enfin, quand il fait froid, il faut réchauffer un peu l'alcool avant. Donc, on met la bouteille d'alcool dans la doudoune.
Okay.
5 minutes pendant qu'on plie la tente le matin.
Ok.
Ensuite, on l'allume et une fois que c'est allumé, ça va aussi vite que du gaz.
Mais je pense qu'il y a aussi un risque avec l'alcool, c'est que un jour, un petit soir, là, vous faites chier, vous tapez un peu, il n'y a plus rien après le lendemain pour allumer le feu. Ça peut, tu vois, c'est ça, il y a la tentation de l'alcool à 90 de taper dedans. Mais l'avantage, c'est que si vous faites inviter par les mecs de la campagne, ils te sortent l'agneau. T'es en galère, tu peux le mettre dans ton réchaud potentiellement. Je pense que... Est-ce que vous avez essayé de l'autre alcool que de l'alcool à 90 pour savoir si ça pouvait marcher en vrai?
Parce que j'ai dit qu'on en trouvait partout, sauf que c'est pas exactement vrai. Récemment, on a eu du mal. On n'en trouvait pas. Et du coup, on a essayé avec de l'alcool à 70, qui en fait, c'est du gel hydroalcoolique.
Ok, ouais. Bah, en ce moment, on en trouve plein partout.
Donc ça, pour le coup, on en trouve plein partout et ça brûle un petit peu moins bien. Et surtout, ça laisse un résidu au fond du réchaud.
Ah,
c'est
merde.
C'est plus facile à nettoyer, c'est pas top.
Ok, donc on est...
ouais. Faire brûler de la vodka, je suis pas sûre que ça marche.
Ok.
C'est un peu cher.
Ouais, c'est plus cher. Là, pour le coup, c'est plus cher. Putain, génial. Et j'aimerais qu'on revienne justement à la création de ce projet. Surtout que vous êtes deux architectes. C'est intéressant, en fait, de se dire aussi... Vous aviez longtemps, ça faisait combien de temps que vous bossiez avant de vouloir faire ce projet?
On a bossé 3 ans.
3 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir longtemps sur un trip qui est vraiment en plus très introspectif, qui est très lent, qui est très slow travel? Ça a été quoi l'envie, le déclencheur, qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Alors, c'est un projet qui s'est construit assez lentement, je dirais. Mais il y a un truc dont je me souviens. En fait, avant de commencer à bosser, entre nos études et notre premier boulot, on a fait le chemin de Saint-Jacques.
Ah, ok, ouais.
Donc, le chemin de Saint-Jacques, on avait fait une semaine par-ci, une semaine par-là. Puis, un jour, on s'est dit, en fait, au bout d'une semaine, quand on sent plus le poids du sac à dos et qu'on s'est fait des potes, c'est là qu'on a envie de continuer à marcher. Donc, on a envie de le finir d'un coup. Et là, on a pu prendre un mois et demi à la fin de nos études pour finir le chemin de Saint-Jacques. Et je me souviens, on était peut-être à 50 km de Saint-Jacques et on a commencé à regarder sur nos portables les trails les plus longs qui existent dans le monde. Donc, on a regardé les trucs aux États-Unis,
vers
les GR européens. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-là, on s'est dit juste, mais attends, Saint-Jacques, un mois et demi, c'est court.
Et qu'est-ce que vous avez aimé on a déjà reçu quelqu'un qui a fait les chemins de Saint-Jacques et j'en entends régulièrement parler parce que c'est finalement un trail très safe en Europe, qui permet, notamment pour les femmes qui ont besoin de se retrouver avec elles-mêmes ou, je sais pas, de trouver des réponses, de se dépasser, de le faire, par exemple, mais pas que pour les femmes d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous avez kiffé? C'est quoi que vous en avez? Pourquoi ça vous a donné envie, en fait, d'en refaire d'autres? Parce qu'au bout d'un mois et demi, t'as traîné tes guettes, t'as porté ton sac, on pourrait se dire, ouais, c'est bon, quoi. Non, vous, ça vous a donné envie. Qu'est-ce que vous vouliez rechercher dans un autre trail?
Alors, le chemin Saint-Jacques, c'est un truc génial, c'est que tout le monde marche dans la même direction. Et du coup, on croise toujours les mêmes gens et on avance, on se retrouve. Et au final, je pense que il y a personne qui fait vraiment ce chemin là seul, à moins de vouloir, à moins d'insister pour marcher seul. Mais nous, on n'a fait que des rencontres. Et voilà, le fait de recroiser les gens et de savoir qu'on va les recroiser, ça invite aussi beaucoup plus à la conversation. Et on a fait plein de rencontres géniales. Et je pense que là, on cherchait à sortir un peu plus de notre zone de confort par rapport à Saint-Jacques. Parce que Saint-Jacques, c'est un peu le club maître de la rando. T'arrives, t'as ton on te dit, là, t'as une supérette, là, t'as une auberge, ici, t'as un point d'eau, tout est tracé. Donc, c'est hyper confortable pour se lancer. C'est hyper sécurisant, comme tu disais.
Ouais.
Mais là, on a voulu aller un peu plus loin et tracer notre propre route, quoi.
Génial. Et qu'est-ce qui a décidé cet itinéraire Dijon-Istanbul? Parce que comme tu dis, commencer à taper sur Google, plus long trail du monde. Il devait y en avoir une sacrée sélection. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi celui-là?
Ah ben alors, justement, entre Saint-Jacques et Dijon-Istanbul, il y a eu 3 ans. Donc, on a eu le temps de dire, on va partir, on va se faire toute la cordillère des Andes. Non, on va traverser la Mongolie à vélo. On a fait le tour du monde plusieurs fois autour d'une bière. Et puis, finalement, on s'est dit non. On veut partir à pied. Si on part à pied, c'est pas pour partir en avion puis partir à pied. Il y a un côté aussi éco-responsable de si je voyage lentement, c'est en partant de chez moi. Alors, Dijon, c'est pas exactement chez nous. Il y a un truc que je t'ai pas dit.
Ah merde ! Tiens, je me suis dit, bah, Dijon... Non, on est vraiment de Paris, mais on voulait pas partir de Paris.
Bah, c'est presque ça. On est de Paris.
Mais non.
Ouais. Si, on est de Paris. On est de Paris et on aurait bien voulu partir de Paris, mais on n'était pas prêts. Et on voulait traverser les Alpes. Et on s'est retrouvés dans un moment où il fallait qu'on pose l'ADEME de notre boulot.
Ouais.
Et il fallait traverser les Alpes en août parce que traverser les Alpes, c'est déjà bien, on n'allait peut-être pas le faire en octobre.
D'accord.
Et du coup, on s'est dit, non, on ne va pas reporter d'un an. On ne va pas traverser les Alpes à une période où tous les refuges sont fermés, où il nous faut des raquettes. Et bien, du coup, on va partir de là où il faut partir pour traverser les Alpes en août.
En fait, vous avez vu quel était le timing? Et vous avez dit, bon, vas-y, boum, on plante la carte, le point de départ, ça va être là pour pouvoir le faire un peu dans les temps. C'est un peu ça.
Ouais, c'est ça. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de pouvoir partir.
Comme quoi?
Il y a quelque chose qui nous a pas mal occupé. Alors, d'ailleurs, plus Arnaud que moi, c'est que Noël avant de partir, donc on était en train de préparer notre itinéraire, de regarder les choses un peu dans le détail.
Ouais.
Et on a fait une rando en famille et Arnaud a eu hyper mal au genou. Petit flip, un peu stressant.
Okay.
C'est une tendinite qui est une tendinite chronique, syndrome des essuie-glaces. Il avait déjà vu un ostéo plusieurs fois.
Le syndrome des essuie-glaces, excuse-moi, j'ai du mal à le remettre dans le contexte de la rando.
Tu vois, le gel hydroalcoolique, le machin pour désinfecter, hop, ouais. Le petit des essuie-glaces, non?
Ah, ok, d'accord, ok.
Non, en gros, c'est un tendon, c'est lié à la posture du bassin, c'est un tendon qui frotte contre un os du genou et qui est lié à une mauvaise posture qui est récurrente.
D'accord.
Et donc, il avait déjà eu cette tendinite, mais les dernières randos qu'on avait faites, ça s'était bien passé. Et là, une rando vraiment bête, on est parti une semaine en famille. C'était pas très compliqué et il a eu super mal et là on s'est dit zut, on a un truc à résoudre avant de partir, ça va conditionner notre voyage.
Ah ouais. Et donc, c'est la préparation physique, ouais, et être sûr que tout va bien dans le corps. Waouh. Et comment tu fais pour gérer ça?
Et donc il avait un ostéo qu'il connaissait bien, qu'il avait déjà vu, qui lui a dit moi je crois à ton projet, mais il va falloir mettre un plan d'attaque en place. Donc première chose, s'assouplir. Il était raide comme un bâton. On est passé, on s'est mis au yoga comme des fous.
C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est chiant le yoga, mais qu'est-ce que c'est efficace et que ça fait du bien.
Ah. Ensuite, le yoga n'a pas été suffisant. Donc, le deuxième élément, c'était l'alimentation. Parce qu'il y a plein d'aliments qui sont inflammatoires.
Ah, on arrête le gluten, on arrête le lactose. Alors voilà.
Voilà. malheureusement.
Bah à la base, hein, les gars, hein, à un moment donné.
Et troisième élément, et que bon, c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais pour nous, ça a été nécessaire, c'était d'aller voir un podologue qui lui a finalement mis des semelles et ça a fini de redresser la posture. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc ça, ce travail, ça a commencé en janvier. Nous, on est partis en juin.
Ok. Et
pour poser une démission, il faut 3 mois. Donc, c'était en avril. Et donc là, on commence à voir que le timing est serré parce qu'entre chaque étape, pour s'assouplir, pour voir les effets d'un changement d'alimentation, pour voir les effets d'une semelle, à chaque fois, il faut 1 mois. Ouais, donc, on était sur un rétro-planning un peu serré.
Pour bon, tenir, gars, tu le snipais, quoi. Est-ce que tu as fait des étirements ? Attention, pas de fromage ce soir. Ah ouais, tu as dû lui mettre une pression.
Il s'est mis tout seul. Hein.
Ok.
Mais ouais, c'était. Voilà, donc ça, c'était un peu le risque de notre voyage. Et c'est entre autres ce qui a fait qu'on est parti en juin et pas avant, qu'on est parti de Dijon, etc.
Je vois.
Et voilà, c'était un gros bout de notre préparation.
Et qu'est-ce qui, justement, encore une fois, qu'est-ce qui a fait que c'était Dijon-Istanbul ? Pourquoi ce Dijon-Istanbul-là ? Pourquoi pas, je sais pas, partir dans le nord, dans le sud ? Qu'est-ce qui motive cet itinéraire ?
Il y a une partie un peu élimination. C'est-à-dire que on avait déjà fait le chemin de Saint-Jacques, donc on était parti à l'ouest. Donc on a commencé à regarder vers l'est.
Ouais.
Ensuite, on est hyper attiré par les pays nordiques. En plus, en tant qu'architecte, il y a plein de super exemples d'architecture contemporaine là-bas. Mais on est un peu frileux aussi. Donc, on a regardé plutôt vers le sud. Et c'est comme ça que Istanbul, c'est un. Voilà, en regardant un peu, en faisant en fait un cercle de qu'est-ce qu'on. Depuis Paris, où est-ce qu'on peut aller en un an, on s'est dit bah, Istanbul. Et il y a aussi ce côté un peu symbolique. C'est la fin de l'Europe. C'est quand même assez dépaysant. C'est, je pense, une ville qui est entre les influences romaines, chrétiennes, musulmanes. Voilà, je pense que c'est une ville qui mélange plein d'influences et qui nous intrigue.
Bah même en termes d'architecture, c'est un peu l'apothéose aussi du voyage, parce que comme tu dis, il y a tellement de mélanges de civilisations, d'empires qui se sont succédés là-bas, que de toute façon, t'en prends plein les yeux. Et du coup, c'est quoi l'itinéraire ? Parce que là, vous savez quand même 4-5 mois que vous êtes parti, hein, ouais. Ça ? Et là, on a fait Dijon-Slovénie. C'est combien de bornes, ça ? Parce qu'en fait, j'ai l'impression... Ah, c'est con, je suis désolé de dire ça. Mais moi, je me dis, franchement, les gars, ils avancent pas, les gars. C'est l'impression que c'est à côté. Tu dis, c'est à côté. Bah, tu viens de l'Italie. T'as fait France, Italie, Slovénie. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites combien de... Mais je me rends pas compte. Ça fait combien de kilomètres? En vrai, ça se trouve, ça fait déjà 1500 bornes, un truc comme ça, non?
Là, on est à peu près... On est presque à la moitié. On a dû faire 2000 kilomètres.
Ouais, ouais.
On en a 4500 au total.
Ah ouais, non, ouais, d'accord. Mais et c'est combien de kilomètres par jour? Parce que c'est pareil, quand tu traverses les Alpes, tu vas pas faire 50 kilomètres par jour. Si t'en fais 10, t'es content, je pense, non?
Ouais, c'est ça. Dans les Alpes, on faisait 10-15 kilomètres par jour. Et dans la plaine totale, on fait plutôt du 25. Là, en ce moment, c'est vallonné, on fait du 20. En plus, on est un peu lourd, donc voilà.
Ouais, la déconne, quoi. 20 kilos.
Non, mais il faut trouver un rythme qui soit durable parce que c'est un an. Donc, on ne va pas tout cramer en une journée.
Bien sûr.
On redémarre pas le lendemain, ça ne marche pas.
Ah, c'est ça que j'allais dire. C'est sur un an. C'est le planning, c'est un an. Et c'est quoi le planning des... Moi, c'est toujours pareil. J'essaie de me dire, mais c'est quoi le quotidien des marcheurs ? Parce que c'est quand même un quotidien qui est assez routinier, mécanique quand même. On est d'accord ?
Alors, c'est marrant. C'est... routinier et ça change tout le temps en même temps. C'est-à-dire que oui, on se lève, on marche, on se couche, mais on change d'environnement, les jours changent de longueur, il fait plus froid, et au final, dès qu'on a l'impression de s'être habitué à un rythme, et ben ce rythme est obligé de se transformer parce que il fait nuit plus tôt. On est passé en montagne, du coup, on ne cherche pas les endroits de bivouac de la même manière. Voilà, donc, c'est vraiment pas une routine lassante de ce point de vue-là.
Ouais, je vois. Est-ce que, justement, en parlant de non-routine, est-ce que tu as des anecdotes à nous balancer sur ce côté où, tu vois, le truc de l'anecdote directe, tu flashlight dans la bouche quand tu arrives parce que c'était près de la frontière croate. Quelles sont les anecdotes qui ont pimenter, épicer un peu cette aventure, que ce soit peut-être en bien ou peut-être aussi malheureusement en moins bien. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête comme ça?
Je dirais que c'est souvent des rencontres, parce que c'est les autres qui amènent un peu l'inattendu.
Forcément. Donc,
par exemple, la semaine dernière, y a ma famille qui est venue marcher avec nous.
Ok, cool.
Pendant une semaine, c'était hyper sympa. Puis on les quitte et on va faire les courses au supermarché. Et on cherchait de l'alcool. C'est le fameux jour où on s'est retrouvé à acheter du gel hydroalcoolique, un peu en désespoir de cause. Et là, il y a un monsieur qui nous voit et qui interpelle Arnaud. En me disant, mais vous allez où? Vous faites quoi? Ce monsieur avait fait le chemin de Saint-Jacques. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a vu nos sacs à dos, notre air un peu qui dort sous la tente.
Et là, vous étiez en Slovénie, c'est ça?
On était en Slovénie, exactement. Okay. Et du coup, il s'adresse à nous en anglais, voilà. Et il nous dit, mais vous dormez sous la tente? Est-ce que vous voulez dormir chez moi? Et donc, voilà, on s'est retrouvés chez lui. Il nous a appris à jouer au go. Et c'était un vieux monsieur qui vivait seul et qui adorait la randonnée. Voilà, je pense que...
Ça, c'est des rencontres comme ça où tu dis... C'est marrant, en fait, parce que ce que j'aime dans ce genre de voyage, c'est que tu vas faire des choses que tu ferais jamais si tu n'étais pas en voyage. Chose que... Enfin, tu n'irais jamais chez ton voisin passer la nuit ou même chez quelqu'un d'à côté de chez toi, un petit vieux, solo. Tu sais, il y a un petit... C'est dingue parce que... Je trouve que quand tu voyages et surtout quand tu prends le temps de voyager à pied, tu redonnes du sens ou de l'importance à des choses qui limite te repoussent. Tu vois, enfin, c'est pareil quand t'es dans ton quotidien, tu veux pas être sale, tu veux pas être mouillé, tu veux pas avoir faim. Et presque dans ton voyage, c'est pas quelque chose que tu cherches, mais c'est quelque chose qui te passe au-dessus et qui est pas grave et que tu relativises. Pareil quand là, tu rencontres un vieux monsieur. Moi, je rencontre un vieux monsieur dans mon supermarché à côté de chez moi, tu me dis, tu veux venir dormir chez moi? Je peux t'assurer, je lui dis non. Je dis, non, c'est gentil, je veux pas. Et là, quand tu es dans ce mode de voyage, tu dis, ouais, en fait, j'ai le temps, je suis là pour découvrir et j'ai envie de peut-être comprendre ce monsieur, c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'il fait. En fait, tu as appris le jeu de Go, qui est quand même un jeu chinois, je dis pas de bêtises, en Slovénie. Enfin, je trouve ça quand même fou. Je trouve ça quand même fou. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres comme ça qui t'ont marqué?
J'en ai une assez marrante. C'était en France, dans la Trouée de Belfort. Et donc, on pose la tente au bord d'un petit étang, à côté d'un village. C'était une heure de pique-nique au bord de l'étang. Ouais. Et là, il y a un monsieur qui arrivait avec son fils. Je pense que c'était un monsieur qui n'avait pas beaucoup voyagé, voire pas du tout. Et il arrive vers nous, mais vous allez à Istanbul ? Istanbul ? Il nous l'a fait répéter 10 fois. Et il était là, mais ça c'est dingo quand même. Et puis il prenait son fils, mais ils vont à Istanbul ? Et puis là, une phrase qui nous a vraiment fait exploser de rire, il nous a dit, oh là là, vous me ramenez du taboulé. Et je ne sais pas pourquoi, Istanbul c'était le taboulé. Voilà,
mais comment il a pu savoir? C'est marqué sur votre sac?
Non, on a discuté un petit peu.
Ah, ok, je me suis dit, c'est possible. Tu sais, il y en a, ils mettent ça sur leur van, sur leur stack, tu sais, de leur projet. Ça va. Et est-ce qu'il vous arrivait, parce que c'est pareil, les gens, des fois, ils ont peur de faire ce genre de projet parce qu'ils, voilà, ils ont peur. Ils ont peur de se retrouver même seul en montagne, qu'il leur arrive quelque chose ou avoir pouvoir se faire aborder par les mauvaises personnes. Est-ce que vous avez été senti à un moment donné en péril, en danger, en insécurité, pour X raisons? On a dit les ours, il n'y a pas eu de souci, mais les autres choses.
Alors, on ne s'est pas senti en insécurité, comme tu dis, vis-à-vis des gens. Enfin, pour l'instant, on n'a pas eu de problème.
Ok.
On a traversé des pays qui sont quand même assez safe. Y a un moment en montagne, on s'est fait un peu peur.
Ok. C'est-à-dire on
a traversé les Alpes sur le GR européen 5. Donc, c'est un GR hyper bien balisé avec des refuges très fréquemment, etc. Mais il y a un moment dans le GR où tous les guides te disent « prends un bus ». Et nous, on s'est dit « non, nous, on ne prend pas de bus ». Et du coup, on a trouvé une petite variante qui passait sur une crête. Ça avait l'air très mignon et tout. Sauf que c'était un sentier beaucoup moins emprunté et du coup, de bien moins bonne qualité. Et là, pour passer un col, il y avait un pierrier. Mais le genre de pierrier, j'appellerais pas ça un chemin. Enfin, c'était vaguement balisé.
C'était des pierres, des grosses pierres qui pouvaient se péter la gueule à tout moment, quoi.
Exactement. Donc, Arnaud monte d'abord. Il me dit, reste sur le côté, il y a tout qui s'écroule. Donc, bon, il monte comme il peut. Et là, moi, j'ai suivi. Et à un moment, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais il y avait juste tout qui s'écroulait sous moi. Donc, je me suis allongée dans les pierres en me disant, ça va répartir le poids et tout. Sauf qu'après, je ne savais plus sur quelle partie de mon corps m'appuyer parce que j'avais l'impression que dès que je m'appuyais un tout petit peu plus sur un pied que sur l'autre, je descendais d'un cran, quoi.
Et là, ah ouais. Donc,
ouais. Là, j'étais pas bien. Le cœur qui s'emballe. OK, on respire. J'ai réussi à reprendre appui. On est monté jusqu'en haut. On s'est arrêté au col. On a fait une petite pause. Mais ça c'est... Enfin, tu vois, quand tu me dis insécurité, c'est direct à ça que je pense.
Bah, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est qu'un pierrier, c'est comme une côte, une pente. Mais au lieu d'avoir de la terre ou des gros rochers, c'est que des gros... C'est une espèce de c'est des rochers, des pierres, des cailloux qui sont de différentes formes mais qui font un éboulis en fait. Et dès que tu poses le pied dessus, donc tu as des pierriers qui sont très safe, sécurisés, parce que c'est des grosses masses de roches, et d'autres où ben t'as un effet sable mouvement. Tu poses le pied dessus et tu tombes, t'appuies en fait sur les pierres qui s'écroulent tout doucement. Et le problème du pierrier, hey, c'est que c'est comme le sable mouvement, ça peut t'absorber en fait. Enfin, il suit ta cheville, elle passe entre deux pierres, boum bam, tu te fais broyer en fait. Et c'est ça qui aurait pas été drôle, hein Marie?
Non, c'est pas drôle du tout.
Non, clairement, ça aurait pas été drôle. Est-ce que juste dans votre démarche de faire ce voyage, il y avait que un, parce que là, on voyait que waouh, c'était cool de marcher. Waouh, vas-y, on va faire ce trail, ça va être un truc pour nous, mais c'était quoi le but personnel de ça, au-delà de la découverte et de se prendre un moment? Qu'est-ce que vous cherchiez? C'était quoi l'émotion que vous avez cherchée? C'était quoi? C'était la liberté? C'était on a marre du stress parce qu'on sait que les archis ça bosse beaucoup beaucoup beaucoup. C'était quoi un peu le but au-delà du côté waouh de la balade, enfin de la balade de ce projet?
C'est une bonne question.
Attention, il y en a plein d'autres des bonnes questions qui peuvent arriver à tout moment.
Alors, je pense qu'il y a une part de défi sportif.
Besoin de se prouver dans la vie, ok.
Voilà, et aussi, il y a quelque chose de très particulier au fait de vivre avec le moins de choses possible. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas en train de partir sans argent en demandant l'hospitalité partout. On a un bon équipement, on a fait des économies pour faire ce voyage, etc. Ouais. Mais quand même, en étant dans la nature et en portant sa maison sur son dos, on ne peut pas se permettre d'avoir plus que ce dont on a besoin.
Et ça vous a fait vous sentir comment, ça?
C'est un sentiment, j'ai un peu du mal à le décrire, mais on se sent plus proche des gens, plus proche de soi-même, plus proche de la nature. Ça fait du bien. Franchement, quand on vient d'une vie parisienne, c'est pas mal.
Et à ton avis, c'est dû à quoi, ça? C'est bête, mais c'est dû à quoi, le fait de... Qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir moins ou peu, ou on va dire le strict nécessaire, comment ça se fait que tu te sens plus proche des gens, même de toi?
On n'est pas déconcentré par le matériel. On a des envies qui correspondent à nos besoins et qui vont pas beaucoup plus loin. Et on est plus attentif à ce qui se passe autour de nous. En fait, on a tellement peu de choses, même pour se distraire, même pour passer le temps, si on s'assoit dans un parc, on n'a pas de batterie, on n'a pas de bouquin, enfin, on a une liseuse, mais on a peu de choses pour rester centré sur soi-même, et du coup, on va plus regarder à l'extérieur. Et on va plus aller chercher la rencontre et être et en profiter, et en plus la savourer.
Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est super ce que tu dis, dans le sens où effectivement, dans notre quotidien, on a tous les convenances pour nourrir notre kiff intérieur, que ce soit des petits gâteaux dans le placard, que ce soit aller sur Netflix, que ce soit le téléphone pour les messages ou peu importe. Et que là, en fait, avoir le minimum, tu n'es plus tourné vers ton petit nombril, mais tu es obligé d'aller trouver l'épanouissement, le plaisir, le bonheur ailleurs, en fait. Et tu vas te tourner vers... tu vas t'ancrer peut-être plus quand tu regardes les choses, tu les regardes intensément. Parce qu'en fait, il y a un truc que j'avais remarqué aussi dans différents voyages, même différentes expériences comme j'ai pu faire comme Vipassana, c'est que quand ton cerveau il sait qu'il a pu, il a plus accès à sa dose de dopamine régulière dans laquelle il a l'habitude d'avoir, que ce soit le téléphone, que ce soit peu importe les coups qu'il a des potes ou peu importe ou le encore une fois les petites choses qu'il aime bien manger, qui va te pousser lui à aller chercher parce que lui il a besoin de sa dose de dopamine. Quand il le sait qu'il l'a pas, il est super intelligent. Le subconscient est très très puissant. En fait, il va te pousser lui-même à aller rechercher de la dopamine parce qu'il en a besoin, il en a envie. Mais du coup, bah, ça va te recentrer sur autre chose. Et du coup, il est en mode, bah, vas-y, je vais regarder autour de moi. Bah, tiens, je vais aller chercher la rencontre. Et ça, et en fait, au lieu que le cerveau habituellement te pousse vers des trucs qui peuvent être un peu toxiques, hein, rester à scroller sur le téléphone, bouffer des trucs qu'il faut pas, eh ben, il va avoir la même démarche, sauf que là, vu que tu lui as privé de tous les trucs un peu toxiques, il va aller vers des choses super sains, en fait. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ce côté où tu redécouvres un peu ton toi et ton environnement, en fait. C'est un peu ça.
C'est ça. Et il y a une dernière chose. Donc, on a un peu parlé de défis sportifs, de se recentrer sur soi, d'aller vers les autres. Ouais. Et nous, en tant qu'architectes, on aime aussi beaucoup se renseigner sur ce qu'on voit. On est vachement dans l'observation et on essaye continuellement de comprendre un peu où on est, comment est-ce que le territoire façonne l'architecture, qui est aussi façonnée par la culture des gens. Et de voilà, on est un peu en constante observation et on essaye de se renseigner au fil de notre voyage. Moi, j'ai une petite liste de questions sur mon téléphone où dès que j'ai de la batterie, je fais une nouvelle recherche. Ah oui, alors telle roche qu'on voit tout le temps en ce moment, ça vient de ça. Ah, c'est pour ça que les maisons sont comme ça. Et les gens, du coup, ils ont plutôt tendance à mettre la grange au sous-sol et à vivre à l'étage ou inversement selon les régions qu'on traverse. Donc, ça, c'est quelque chose. On savait qu'on avait envie de découvrir l'Europe et qu'on avait envie de mettre un peu en relation l'architecture, la culture, les territoires. Mais on se rend compte en marchant et en étant en fait juste deux que le fait d'aller creuser ces choses-là, de questionner notre environnement, ça nous apporte, ça nourrit nos conversations et ça nous donne envie d'avancer. C'est devenu une vraie motivation dans le voyage.
Ouais, puis en plus, c'est quelque chose que vous avez en commun. Donc ça nourrit aussi des conversations qui doivent être super. Pour le coup, quand t'es archi, ça doit être super stimulant en fait, de voir des nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'aborder le bâtiment, la construction. Donc ça va être franchement, je trouve ça canon. Et détail con justement, on est d'accord que du coup vous n'avez pas de batterie sur vos téléphones, vous avez comme tu dis, tu n'en as rien en fait. C'est la vie simple life.
Alors cet été on avait un panneau solaire.
Ok.
Donc c'est un petit panneau solaire qu'on déroule sur le sac à dos, mais ouais. On l'a lâché parce que c'est le genre de truc qui fonctionne quand il y a du vrai soleil. Donc c'était parfait pour les Alpes.
Ok. Et
là c'est, il était devenu inutile et puis. Comme on s'est un peu alourdi, voilà.
Et en bon parisien, mais comme citadin connecté et archi, en plus, on est tout le temps à donf, etc., à 2000 à l'heure. Et souvent, on n'a pas beaucoup de temps libre. Donc, quand on a du temps libre, on est en train de voir des potes, on est accroché à l'hôtel, etc. Qu'est-ce que ça vous a fait de pas avoir votre tel, de plus avoir votre tel dans votre quotidien ?
Alors, ça fait du bien par certains côtés.
Ouais.
En fait, c'est pas qu'on l'a plus, parce que quand même, on a un compte Instagram sur lequel on est assez actif.
Ouais.
Comme je te disais, on fait des recherches, on note des choses sur nos téléphones, on écoute des podcasts parfois.
Ouais.
C'est plutôt qu'on va savoir pourquoi on l'utilise. Donc on va pas scroller pour scroller. Ça n'arrive plus, ça a disparu. Et c'est pas une mauvaise chose. Par contre, les moments où ça nous manque, c'est plutôt quand on en vient à se dire. Est-ce que j'appelle tel ami parce que ça va m'utiliser de la batterie et je sais pas quand est-ce que je charge mon téléphone la prochaine fois. Donc je dirais qu'il y a
un côté isolement qui vous pèse.
Bah par moment un petit peu, surtout là les jours rallongent et donc on aimerait bien appeler un peu plus de gens et puis c'est pas toujours possible.
Ça c'est intéressant. J'aimerais qu'on arrive pour commencer à arriver sur la fin de ce podcast, mais sur l'aspect changement émotionnel, intérieur. Qu'est-ce que toi, Marie, ça t'a, sur les 2000 kilomètres que t'as déjà fait à pied, ça t'a apporté? Tu vois, tu dis, si tu veux faire un bilan, si pour X raisons, ce que je ne vous souhaite pas, ça devait s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en as tiré? C'est quoi les leçons que t'as appris peut-être sur toi, sur la vie, sur comment tu te vois, comment tu perçois les choses, comment tu te projettes? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'as tiré de ces 2000 premiers kilomètres? C'est quoi le bilan?
Alors, je pense que s'il y a un truc qui devait changer dans ma manière d'être en revenant en ville,
ouais.
C'est essayer de ne pas trop retomber trop vite dans ce côté citadin de « je dis pas bonjour à mon voisin ». Parce que, tu vois, ce monsieur qui nous a interpellés dans le supermarché et avec qui on a passé une soirée, ou alors celui qui nous a dit de lui ramener du taboulé, c'est vraiment des petites pépites qui ont égayé nos journées. C'est ce qui fait notre voyage. Et je pense que ces gens-là, ils ont su voir que nous, on était ouverts à la rencontre. Et du coup, j'aimerais bien garder ce regard un peu au-dessus de l'écran de mon téléphone et justement réussir à continuer à voir autour de moi les gens qui ont envie de faire des rencontres et de savoir aller vers eux spontanément sans me dire « mais qu'est-ce qu'il va penser ?» ou je ne sais quoi.
Ouais, c'est être plus ouvert en fait, c'est être moins centré, c'est être moins auto-centré. C'est marrant, c'est que vous avez fait un trip qui est quand même très solitaire et à la base, tu pourrais dire c'est très centré sur vous parce que vous êtes là, vous n'êtes pas dans des villes, vous n'allez pas interagir. Et au final, ce que j'ai l'impression que ce qui émane de ton discours, c'est en fait, on était plus ouvert aux rencontres, aux gens et à ce qui se passe autour de nous. Tu vois? Et c'est finalement, c'est bizarrement un trip très solo, auto-centré, qui en fait, tout ce que tu en retires, c'est quelque chose de très altruiste, de très ouvert, de, tu vois, qui va vers les gens. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très, très beau parce que c'est pas forcément ce qu'on attend de ce genre de trip à pied. Tu vois, on pense à un truc très introspectif, on est dans son délire, dans sa caverne avec son réchaud à bois et sa bouteille d'alcool. Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est vraiment un discours très tourné vers l'autre, vers son environnement. Parce que pareil, hein, des fois, tu peux être dans un environnement en pleine nature, si t'es sur ton téléphone, dans un endroit très beau, tu t'en rends même pas compte en fait. Non, ça j'adore. Écoute Marie, je vais terminer par les deux questions par lesquelles j'aime bien terminer ce podcast traditionnellement. La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour revenir dans le passé, pour revivre un moment de ces deux premiers 1000 kilomètres, ce serait quel moment que tu voudrais revivre?
Alors, je pense que c'est l'ascension du glacier Mittelberg.
Rien que la punchline est très stylée. Je ne connaissais pas ce glacier et il y a un vrai truc.
Alors, le Mittelberg, c'est le point culminant. Ah non, c'est peut-être pas le. Je suis désolée, je me reprends. Le glacier Mittelberg, c'est un glacier en Autriche. Et c'était le point culminant de notre itinéraire.
OK.
Alors, on n'est pas vraiment monté sur le glacier. On l'a longé et on est passé un col à 3000 mètres. Et en fait, c'était un sentiment de liberté incroyable. On était au milieu des Alpes. Ouais. Donc, on avait parcouru la moitié du chemin qu'on avait à parcourir dans ces montagnes. On savait qu'on était capable, parce que comme je t'ai dit, les petits problèmes de tendons, tout ça, on a failli pas partir, ou en tout cas ne pas traverser les Alpes.
Ouais.
Donc en fait, on savait qu'on était capable de faire la deuxième moitié, mais en même temps, il nous restait encore tout cet inconnu et tous ces paysages magnifiques à découvrir. Et il faisait beau, et on était face à un glacier gigantesque qui faisait des craquements. C'est une espèce d'énorme masse mouvante. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Ouais.
Donc, il y avait vraiment une sensation que l'avenir est devant nous et qu'on est capable de le faire. Et que
c'était une belle victoire aussi. J'imagine, c'était genre, on l'a fait, ça, si on a fait ça, le reste, on va tout cartonner en fait. Génial. Et dernière question, si vous deviez résumer votre trip en une phrase, une citation ou une punchline, ce serait laquelle?
Alors, il y a une citation que j'aime bien. Enfin, une citation. C'est une phrase d'une chanson de Gaël Faye qui dit « Mon père m'a dit, méfie-toi du cynisme, l'avenir appartient aux idéalistes. »
Eh bien, ça me plaît, ça, Marie. Ça me plaît. J'adore Gaël Faye, pour ceux qui n'écoutent pas, et d'ailleurs, qui est un écrivain aussi, Gaël Faye, engagé. Il a plusieurs chansons, c'est des vraies pépites parce que c'est très bien écrit et j'adore cet esprit très très brillant, très positif. Marie, merci beaucoup pour ce partage, pour ton temps, pour les conseils, pour les petites anecdotes, pour les émotions. Et surtout, j'ai envie de te dire, il vous reste quand même encore 2000 bornes, hein, les gars, 2000-2500. il y a encore du boulot. C'est l'arrivée, c'est en juin prochain, du coup ?
Non, non, c'est en avril.
Ah ! Il y a une sacrée partie hivernale, quand même, là. C'est quels pays qui vont être traversés bientôt, là ? Croatie, Albanie, c'est quoi ?
Non, alors là, on monte vers la Hongrie. On suit le GR européen 7.
Okay.
Ensuite, on va arriver en Serbie, Bulgarie et Turquie.
Ah ouais ? Ah, y a quand même des beaux pays. En plus, on entend, c'est des pays qu'on ne connaît pas trop. Ce n'est pas les pays dont on entend le plus parler. Parce que souvent, c'est sur la côte qui est un peu plus populaire. Eh bien, écoute, tu me renverras un message et tu me raconteras pour que tu viennes raconter la fin de ce périple si tu en as envie. Ça marche ?
Ça marche.
Eh bien, écoute, Marie, je t'envoie plein de belles ondes. Kiffez bien avec Arnaud la fin de ce voyage. Profitez-en à fond. Faites attention aux tendons, aux poignets, aux avalanches, aux pierriers et peut-être encore aux ours. On ne sait pas. Internaute, si tu veux suivre les aventures de Marie et Arnaud jusqu'à Istanbul, il y a tous les liens de leur Insta et de leur chaîne YouTube. Et puis, Marie.
On n'a pas de YouTube. On a un blog, par contre.
Eh bien, t'as un blog. Eh bien, il y a tous les liens. Voilà. Il y a tout ce que vous avez. C'est dans la description du podcast. Et encore une fois, je vous envoie plein de belles ondes. Bon courage et encore bravo de faire ce genre d'aventure. Je pense que la planète a besoin qu'on réinvente le voyage et le tourisme, et c'est une très belle façon de le faire. Voilà. Donc encore une fois, merci d'être venu et je te dis à très vite. Ciao.
Ciao.